Johan et le lien politique me paraît tout à fait constitutif des sociétés modernes, bien sûr. Nous sommes dans ce type de malaise, un malaise dont il ne faut pas exagérer non plus le caractère pathologique. C'est pas un malaise dont on... dans lequel on est nécessairement malade. C'est un malaise dans lequel on peut très bien exister, dans lequel manifestement nous pouvons largement survivre. Mais il faut les deux. Il faut à la fois l'écart et le lien, manifestement. C'est comme ça que nos sociétés semblent être constituées. Et pourquoi pas? Je veux dire que pourquoi est-ce qu'un lien ne pourrait pas être aussi une manière de s'écarter de quelqu'un? C'est-à-dire, s'il y a un lien, ça suppose quand même qu'on est à debout. Il y avait un très beau sketch de Raymond DeVos là-dessus. Il tenait un bout de bâton et l'autre lui disait lâchez le bâton. Il disait oui, mais quel bout? Le bout qui est au bout du bout, etc. Bon, mais ça veut bien dire qu'il y a plusieurs bouts, donc un écart, mais que cet écart peut être un lien aussi. Donc je crois qu'il faut essayer de réfléchir dans cet ensemble de termes-là. Et pour finir sur la question de la responsabilité ou du témoignage, etc., ultime petite chose, là aussi, hein, nous sommes dans une surabondance de témoignages, tellement qu'on n'arrive plus à savoir exactement quoi en faire. Et personnellement, je me méfie beaucoup, précisément, de cette espèce de frénésie du témoignage. Je crois qu'il y a une méfiance a priori, et il me semble que le concept de trace me paraît beaucoup plus intéressant que le concept de témoignage. Et la pratique même de l'analyse des traces, alors là on revient vraiment dans un travail d'historien, mais aussi de philosophe
et
de psychanalyste, parce que la trace me paraît exemplairement le genre de choses qu'on essaye de suivre, et non pas le témoignage précisément. Donc non pas j'étais là, j'ai vu, je dis ce que fait le témoin, mais voici quelque chose qui reste. Donc on retrouve ma question du reste de tout à l'heure, qui n'est pas restée en suspens pour rien. Voici ce qui reste, et ce reste, il dit quelque chose d'une certaine lisibilité maintenant. Donc la question de la lecture de la trace est toujours prise aussi dans le concept de trace. C'est important. Et dans le rapport, du coup, entre un présent et un autrefois. Voilà, si on voulait remettre ça dans des termes très benjaminiens, ça serait assez facile de voir comment le maintenant, dit Benjamin, de la connaissance, c'est toujours un certain rapport au passé, mais un autrefois, dirait-il. Mais cet autrefois est justement là en tant que lisible, à partir du présent, de mon présent. Et c'est la manière de le rendre contemporain et non pas actuel. C'est la différence encore notable.
Voilà. Peut-être, Joanne, tu voudrais relancer ta question sur l'objet et la manière, sur ta première question que tu n'as pas relevée, qui est une question qui me semble très importante, parce que dans la mesure où il y a une distinction entre les sociétés traditionnelles où il n'y a pas d'objet en fin de compte, et nos sociétés qui ne sont que des objets, où les mémoires, la chose est à peine entre guillemets passée qu'elle est déjà un objet, et avec tous les dépôts de mémoire qui sont possibles par nos archives informatiques et tout le travail qui va avec. Alors peut-être tu voudrais la relancer, ou Eric aller là-dessus, ou autre chose.
En fait, évidemment, on pourrait revenir là-dessus, mais j'avais plus envie d'attraper au vol la dernière portion de ce que tu disais à propos de la frénésie du témoignage, parce que je pense que ce qui est en train de se passer, c'est une il y a une sorte de, enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça une perversion, disons, dans l'histoire, mais il me semble que ce qui se passe avec cette frénésie du témoignage, c'est qu'on se déplace complètement, là. C'est-à-dire que, dans le fond, cette frénésie-là, elle ne coïncide plus tellement avec la question de la mémoire, elle coïncide plutôt avec la question de l'exposition du vécu. Et c'est sûr que les deux sont reliés, mais à la limite, on pourrait même se dire, est-ce qu'on est vraiment en train de... est-ce qu'on est toujours sur le terrain de la mémoire ou on n'est pas plutôt sur, justement, cette espèce de fantasmatique de l'expérience vécue, bon, etc. Donc, c'est peut-être plus dans ce sens-là que je le verrais. Mais je voulais quand même souligner le fait que dans la conclusion de ton livre, peut-être que tu t'en rappelles pas, mais dans la conclusion de ton livre, tu amorces un peu ça, parce qu'à un moment donné, tu poses la question, tu dis, est-ce qu'il est encore légitime, là, c'est peut-être pas ces termes-là, mais est-ce qu'il est encore légitime de parler de mémoire, c'est-à-dire de à chaque fois dire que voilà, cela est de la mémoire, alors que parfois on parle de choses qui sont quand même assez différentes. Et c'est dans ce sens-là, justement, que cette frénésie du témoignage devrait être comprise d'une manière un petit peu différente. Parce que ce qui se perd, au fond, si on retourne au dynamisme de ce qu'est censé être la mémoire, ce qui se perd, c'est l'efficace de la mémoire. C'est-à-dire qu'on est peut-être dans une prolifération d'objets de mémoire, en effet, mais où se perd justement ce qu'est la mémoire. Et peut-être que ce n'est plus de la mémoire, hein, ce qu'on appelle la mémoire culturelle. On est déjà peut-être plus là-dedans.
Oui, c'est l'idée de Derrida que tu cites. Ouais. Peut-être tu peux réagir là-dessus.
Oui, ben, il me semble que l'efficace de la mémoire, le fait que ce que tu disais par exemple du rituel, en fait, la mesure par où il n'y a pas de véritable différence entre le qu'est-ce que et le comment, tout l'être de la mémoire et la pragmatique mémorielle, ce qu'on est en train de faire lorsque on produit un rituel, c'est tout à fait juste dans les sociétés traditionnelles, je pense. Ça ne l'est justement plus dans cette culture de la mémoire. Il me semble que ce qui a été perdu, s'il faut penser en termes absolument de perte, ce qui est toujours parfois un peu gênant, hein, mais si vraiment il y a quelque chose dont on pourrait se dire que c'est perdu, c'est justement cette efficacité de la mémoire. Au sens du rituel lui-même, alors que ce qui reste, encore une fois, ce sont précisément des séries d'objets au sens très large du terme, ça peut être des affects tout aussi bien, mais qui ne peuvent plus fonctionner sur cet appareil de mémoire collective qui leur donnait leur propre énergie. C'est cette énergie mémorielle qui a été escamotée, mais rejouée autrement, déplacée, mais réactivée aussi, mais sur un modèle qui n'est précisément plus celui de cette mémoire collective, sur des modèles culturels, donc qui dépendent à ce moment-là d'autres manières de s'identifier comme sujet, comme acteur de la vie sociale, comme porte-parole, comme ayant une certaine identité, et également une certaine histoire, etc. Et je crois que là, il y a un déplacement majeur dont nous sommes les héritiers, les porteurs. On n'a pas lâché ça. Ce qui me paraît intéressant, c'est que on voit justement opérer cela au 19e, 20e siècle, et que depuis la fin du 20e ou le début du 21e siècle, tout à coup, on voit revenir énormément la notion de mémoire partout, y compris intellectuellement, ce qui me paraît là aussi, sans exagérer les lectures symptomales, quelque chose qui est significatif, d'un retour de la mémoire en disant « Ah, ça y est, enfin, nous retrouvons la mémoire collective que nous avions perdue, soi-disant. » Je ne pense pas du tout que ce soit de ça dont il soit question. L'inverse, d'une sorte de récupération pathologique, en quelque sorte, de ces activités mémorielles. Je crois que c'est un peu comme les tapis qui ont beaucoup servi, qui sont un peu usés, dont on commence à voir la trame. La mémoire, en effet, servit beaucoup à être dans les fils du tapis. Et la trame de cette culture dans laquelle nous sommes s'usant un petit peu, on commence à voir réapparaître précisément ce qui l'avait constitué, si vous me permettez cette comparaison-là. Il y a donc du coup certains effets qui apparaissent qu'on ne voyait pas avant parce qu'ils faisaient partie véritablement du tapis lui-même.
Dominique ?
Oui, mais je ne sais pas si ça peut éclairer un tant soit peu la, la question, mais je me faisais la réflexion que de la même façon qu'on abuse de la mémoire au sens... il y a une référence constante à la mémoire, un surplus de mémoire. Non, mais on abuse peut-être même du terme même, dans le sens où peut-être que là aussi, il y a des dualités à opposer entre la mémoire telle qu'on en parle, mon ordinateur a tant de mémoire, ou toutes les choses qui sont des mémoires, en fait. Je crois que c'est Bergson qui disait qu'en fait, un objet matériel, on peut le considérer comme une mémoire. Et la remémoration, et qui est... puis là, ce n'est pas du tout pour étaler une connaissance de l'allemand que je n'ai pas, mais par la force des choses, chez Freud, il faut aller voir le mot allemand. Erinnerung, qui veut dire mise à l'intérieur. Donc, une mémoire qui est portée. Et peut-être ça, ça rejoint la question de la responsabilité aussi. C'est-à-dire qu'on on parle beaucoup de mémoire, mais c'est beaucoup plus dans une mise en extériorité plutôt qu'une mise à l'intérieur et comme quelque chose qu'on porte, comme on porte témoignage. Ou comment, et que le témoignage est souvent pris au sens, là aussi, extérieur, de, à la limite, la photographie avec le téléphone cellulaire, et on pense saisir le réel comme ça, alors qu'en fait, on est en train d'abolir la remémoration du fait qui nous transforme, nous, et qui nous responsabilise, nous. Et dans ce sens-là, peut-être qu'il y a abus, y compris au niveau même, pas abus, mais en tout cas un mésusage, une espèce de détérioration terminologique, à la limite, du mot mémoire.
Un appauvrissement.
Ah,
ouais. Mais moi, je ne serais pas aussi critique que vous de la question du témoignage. Mm-hmm. Je comprends parfaitement que vous soyez critique, Joanne, tu l'as dit, du dispositif, la mise en scène, et ainsi de suite, qui est en effet une structure de la culture aujourd'hui. Mais le témoignage, si je peux dire, est peut-être le seul reste de l'acte de mémoire vivante. Parce que, à proportion que nous avons des moyens techniques tellement considérables pour déposer les objets de mémoire et donc constituer nos archives qui nous permettent de relayer à des tiers tout ce que nous ne voulons pas nous rappeler, c'est-à-dire que les choses que nous ne savons pas, nous savons que quelqu'un les sait ou au moins qu'une machine les connaît. Donc, je peux oublier énormément de choses. Je prends mon cas personnel, je m'expose là, la mémoire qui était sollicitée par mes maîtres dans mon éducation et la mémoire qui est la mienne aujourd'hui, mais c'est incommensurable. Ma mémoire était sollicitée en vérité quand j'étais jeune. Aujourd'hui, je n'ai aucune mémoire. J'ai ma machine. Bien sûr, j'ai une méga-mémoire ou une méta-mémoire qui me permet d'aller dans ma machine retrouver en gros ce que je veux retrouver. Alors, si j'utilise cet exemple, c'est uniquement parce que je pense que toute la culture est structurée sur ce dispositif. Elle est structurée sur le dispositif en quelque sorte informatique et elle joue la scène que Joanne vient si bien de décrire. Alors, ça me rend en quelque sorte peut-être plus vulnérable à l'acte de témoigner qui me semble toujours un reste humain. Même quand quelqu'un dit « j'étais là », eh bien, ça sert à Monseigneur Williamson en Argentine à pas dire trop de conneries. Mais dans pas longtemps, il n'y aura plus de gens pour ce genre de choses qui vont dire « j'étais là », donc Spielberg a archivé, nos ordinateurs auront accès, et ainsi de suite. Pour prendre un exemple qui est particulièrement criant aujourd'hui. Alors peut-être, Joanne, tu veux revenir sur ça, ou toi, Eric, non?
Juste pour dire que le témoignage, c'est pas seulement la mémoire, hein, c'est une prise de risque. Il y a un enjeu là qui est vraiment qui déborde le simple enregistrement du passé. Ce qui peut-être résume ça pour faire une image, c'est la posture de se tenir là,
Oui.
Et c'est pas simplement la présence, hein, se tenir là, parce que c'est toujours se tenir là, se tenir devant aussi, hein, avoir à répondre de quelque chose et à prendre un risque. Donc moi aussi, je suis un petit peu... en même temps, je comprends... c'est que, justement, le témoignage est au cœur de cette question de la mémoire. Hein. Mais peut-être qu'on a tendance à oblitérer cette fonction de prise de risque parce qu'on est omnubilé par la question de la mémoire. Enfin, je ne sais pas. Mm-hmm.
Peut-être que l'heure est venue de vous écouter, c'est-à-dire de faire en sorte que vous puissiez vous-même poser les questions ou faire les commentaires qui vous viendraient après avoir écouté Eric et en quelque sorte dans un horizon d'attente de lecture de son livre pour ceux qui ne l'ont pas lu ou peut-être qu'il y en a qui l'ont déjà lu, ce qui est sans doute probable. Il ne faut pas hésiter donc à intervenir. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous voulez intervenir? Oui, allez-y. Parlez fort.
Je travaille sur la question de mémoire. Je travaille sur la mémoire de persécution d'une communauté religieuse en Iran, la communauté Bahaï, qui est persécutée sous la République islamique d'Iran. Et ceci, donc, votre travail nous touche particulièrement. Et ce qui m'avait frappé dans l'étude, je travaille sur des témoignages ici, c'était que cette communauté a une vie très intéressante, c'est-à-dire qu'elle ne se retourne pas vers la persécution, même si elle est encore présente, mais elle a une forme de mémoire de futur. Ça veut dire une mémoire qui serait en quelque sorte, au lieu de, d'aller vers soi-même, de reconstruire l'avenir à travers les épreuves du passé. Est-ce que la mémoire aujourd'hui, telle que nous la vivons et telle que vous l'avez expliqué avec les questions des témoignages aussi, n'est pas devenue quelque chose qui nous empêche de construire avec nous?
Ben, si vraiment il y a cette espèce de prolifération abusive des effets mémoriels, certainement. Je signalais qu'il y avait, me semble-t-il, de bons usages de l'oubli. Ça ne veut pas dire, bien sûr, de l'oubli total. Ça veut dire de la capacité de... non pas de faire disparaître des choses, encore une fois, parce que précisément elles restent. Le propre de ce qui se passe, c'est toujours de rester. Mais il peut y avoir des restes qui sont des obstacles et des restes sur lesquels on peut construire quelque chose, bien sûr, élaborer. Donc, en ce sens, l'opposition que Dominique Scarfonnet, après Simone Veil, reprenait, la fausse opposition entre passé et futur, se joue là. Il peut y avoir en effet une opposition entre les deux. Le passé peut être un obstacle. Mais il peut au contraire être un ferment. Et si on peut le faire jouer comme ferment, on a plus de chances de s'en sortir que si on le fait jouer comme une pure résistance ou un obstacle.
Mariella.
Quelques mots, évidemment, qu'on peut dire. Vous m'avez donné beaucoup de suggestions, mais je ne sais pas, parce que je n'ai pas encore eu le plaisir de lire ton livre, Eric. C'est toi penser aussi à une autre dimension, qui est la dimension entre domination et mémoire. Je pense que c'est un problème, je pense, très important, qui va aussi à réfléchir sur la notion de témoignage ou sur la notion, qu'on veut dire, d'inventer une mémoire à travers les nouvelles figures telles que sont les victimes, certaines fois les réfugiés, ou effacer et s'approprier de la mémoire. Moi, j'ai pensé voleur du passé et bureaucrate de la mémoire. Mmh. Ou, disons, dans les situations contemporaines, qu'on peut dire, je m'imagine, je pense comme en Irak, non? Aujourd'hui, on a effacé un passé, on a bureaucratisé la mémoire, et qu'on peut dire, et on filtre aussi des témoignages qui reconstruit, comme il dit, une légitimation d'une domination, d'un pouvoir. Et ça, c'est un point très, très fort qui appartient à notre contemporanéité. Très, très fort. Alors, je ne sais pas si tu l'as abordé, mais pendant que vous étiez en train de parler, j'ai dit, mais quand même, vous parlez des sujets. Or, il y a aussi une façon d'avoir complètement détruit les sujets, d'avoir créé, comme on veut dire, des territoires où on a volé les passés des sujets et on a reconstruit des mémoires bureaucratiques.
Bureaucrate de la mémoire me paraît une excellente expression, tout à fait, c'est très juste. Sur la question de la domination, directement, non, j'en ai pas traité. Indirectement, certainement, par toute une série d'enjeux liés à ce que j'appelais tout à l'heure rapidement des politiques de la mémoire. Bon. Bien sûr, on retombe un petit peu sur ces problèmes-là. C'est resté oblique, bon, alors là, de manière peut-être simplement biographique, parce que je travaille actuellement surtout sur un texte de Pascal qui porte précisément sur la constitution du lien politique et comment la question de la domination intervient là-dedans. Donc pour moi, c'était une manière mentale de me réserver toute la question de la domination pour le texte sur Pascal. Bon, donc là, j'en ai pas vraiment traité. Ça reste indirect. Mais l'opposition que tu décris est tout à fait centrale. Oui.
Quelqu'un d'autre? Allez-y.
C'est-à-dire que j'aime bien le jeu, le tri-trac. Oui, parce que c'est vrai que c'est un peu comme si quelque chose ne s'emboîtait pas, mais j'ai quand même un peu de réticence à le caractériser comme un pur mécanisme. Je ne pense pas que ce soit un pur mécanisme. C'est simplement que, pour toutes sortes de raisons, on a tout à coup mis une distance. On se place à distance de la mémoire, malgré le fait que la mémoire configure quand même tout de même notre culture, mais on la place à distance. Ce qui fait qu'on peut poser cette question, quel est le contenu du passé? Et par ailleurs, une autre question, comment passe ce passé? Alors que pour la tradition, c'est la même question. On ne peut pas séparer les deux questions. Mais on pourrait peut-être ajouter une troisième question aussi. C'est, puisque ça a passé, puisque le passé a passé, où a-t-il passé? Ça, c'est peut-être... c'est peut-être la question de l'avenir aussi, parce que... ça a l'air un peu naïf. Où a-t-il passé, le passé? Mais ce que je veux dire par là, c'est que... c'est vrai que il y a toujours une orientation quand même. C'est-à-dire, si on s'intéresse au passé, c'est parce qu'on l'oriente. C'est pas simplement il y a des choses passées, on veut essayer de voir comment ça a passé. C'est que on oriente à partir du moment où on nomme le passé, on l'oriente dans une direction. Alors peut-être que l'ajustement, il serait peut-être à faire aussi de ce côté-là. Je veux pas m'éterniser là-dessus, mais c'est simplement pour dire que dans le rituel, la pratique même du rituel, l'objet du rituel, c'est le rituel lui-même. C'est-à-dire que ce à quoi on s'attarde, c'est à refaire les mêmes gestes, redire les mêmes choses. On n'est pas en train de se poser la question comment on va le dire ou comment on va le faire. On le fait parce qu'on l'a toujours fait de cette manière-là. On le dit parce qu'on l'a toujours dit. Et on le dira toujours de cette manière-là. Et c'est dans ce sens-là qu'il n'y a pas cet écart, cette mise à distance de la mémoire. On pourra en discuter. Si vous restez tout à l'heure, on pourra peut-être en discuter.
Disons que peut-être le modèle exactement inverse, c'est la phrase de l'ex-président Bush, disant « The past is over ». C'est exactement la posture rigoureusement inverse. L'idée absolument folle, absurde et surtout ridicule, que le passé puisse être fini.
Liquidé.
Ça n'a strictement aucun sens, bien sûr. Sinon, dans une politique de la mémoire. Et là, on retrouve vraiment la question de la domination de façon absolument exemplaire.
On va donner la parole à un historien, Alfred Dubuc.
Oui, j'ai été amené récemment à réfléchir, justement, à ce problème de la mémoire. L'élément déclencheur, ce sont été les propos stupides du maire de Québec à propos de la bataille de 1759 et de la défaite. Je me suis posé la question, d'abord, la mémoire, c'est un acte du présent. C'est aujourd'hui que je pense à cet événement d'il y a 250 ans. Et comment cet événement m'est parvenu à moi? Il m'est parvenu parce que la signification de cette défaite a été nourrie par tous les événements qui ont suivi dans l'histoire. Que ce soit les événements de la domination britannique sur ce que l'on a appelé au début la province de Québec, puis ensuite le Haut et le Bas-Canada, puis ensuite le Canada uni. Donc, toute cette période de la domination britannique me permet de voir comment, en quelque sorte, s'enrichit l'événement de 1759. S'enrichit par ces actes du dominateur sur ma société. Et ça se poursuit par cet acte de la Confédération, qui n'est pas une véritable confédération, mais qui maintient ma société sous la domination d'une autre société. Donc la mémoire est une... La mémoire permet à un événement du passé, non pas de s'éteindre, mais par l'histoire de s'enrichir constamment. Lorsque le maire Labaume nous dit que la bataille de 1759 n'a plus aucune signification, c'est fini, ça dure un quart d'heure, on n'en parle plus, c'est une aberration. Et d'abord, c'est un manque de culture proprement stupide, mais moi, ça réagit en moi, ça m'a permis de justement réfléchir à ce que pouvait être la mémoire. La mémoire est un acte du présent, mais sur un acte du passé qui a subi des sauts dans l'histoire et qui a nourri la signification de cet événement.
C'est des bureaucrates d'un autre genre.
Oui. Vos remarques sont très justes. C'est un petit peu ce que j'essayais de mettre sous le concept d'anachronique. Le propre de l'anachronique, c'est justement que ce n'est pas un anachronisme. L'anachronique, c'est ce temps qui revient sur lui-même, qui s'enrichit de manière parfois stupéfiante, surprenante à chaque fois, et dont il faut tenir compte. En même temps, je crois qu'il faut maintenir une différence entre les procédures mémorielles et les procédures historiographiques. Je pense que ça, vous en conviendrez bien sûr, le fait que la mémoire suppose quand même une sorte d'implication de ses passés dans un présent, alors que la tâche de l'historien est quand même d'essayer d'expliquer, donc de, non pas de s'impliquer au sens d'être plié dedans, mais d'expliquer au sens de déplier. Alors, il y a bien sûr un regard historiographique sur la mémoire, sur les procédures mémorielles, qui se sont beaucoup développées depuis les grandes enquêtes de Pierre Nora et compagnie. Il y en a eu d'autres à côté ou qui ont suivi. Et je crois qu'elles sont en effet très importantes. Je crois que c'est un gain pour l'historiographie d'en arriver maintenant, ce qui ne se faisait pas tellement avant, de prendre en compte précisément les processus mémoriels comme tels.
Merci pour cette intervention. Il y avait une... Oui, allez-y.
Je me demandais, dans cette difficulté de la mémoire, de la bureaucratisation de la mémoire, des devis ministériels qui veut qu'on enseigne une certaine doxographie, tel penseur, telle pensée, tel courant de pensée, comment enseigner aujourd'hui? Comment essayer d'inculquer peut-être ce ferment de la mémoire, mais sans brandir bande de jeunes incultes, vous ne comprenez rien, vous êtes de la génération Y? Comment combattre des monstres comme Google qui mettent la main basse sur des fonds de bibliothèques, mais qui finalement commencent à nous les faire payer? Alors, il y a aussi ce défi-là de l'ère numérique, mais sans non plus juste faire une dichotomie. Comment on pourrait penser l'enseignement à la de votre vie?
La question qui tue.
La question qui tue.
C'est toujours. Mais deuxième volet, peut-être, pour donner aussi sur la vie, par rapport au chapitre sur nous, j'aurais aimé vous entendre aussi quelques-uns.
Ah, ben là, tout un programme.
Tant qu'on y est.
D'accord, oui. Je pense qu'on va passer au 20.
Allons-y d'abord sur l'enseignement.
Très directement. Disons que ça permet de revenir à la première remarque de Joanne, qui me paraît, pour moi, la remarque cruciale. J'étais très content qu'elle commence avec cela, parce qu'en effet, pour moi, c'est vraiment le problème principal, qui est celui de la transmission. Mm-hmm. Donc, l'enseignement est à remettre, bien sûr, dans ce cadre-là. C'est pourquoi il est si important de réfléchir sur les phénomènes traditionnels, parce que ce sont certains types de transmission qui nous permettent de mesurer aussi nos formes de transmission à nous. Alors, je suis désolé, mais je ne vais pas pouvoir vous refaire la doctrine de l'éducation du futur en deux mots maintenant.
Au moins les prolégomènes.
Quelques prolégomènes, peut-être. Je pense que la question par laquelle il faut commencer n'est justement pas celle du passé, mais celle du présent. Si le principe ou la question c'est « mais que fait-on avec tous ces jeunes apparemment dont on dit qu'ils sont incultes, etc. » la première chose à voir, c'est de saisir en fait quelle est la forme de culture qu'ils ont. Ils en ont une. On n'est jamais inculte. On a toujours appris quelque chose et on s'est toujours transmis quelque chose. Mais sous quelle modalité, comment, quelle forme de mémoire est impliquée dans ce type de processus? Et à partir de cette réflexion, essayer de faire jouer à ce moment-là des formes de culture qui sont peut-être plus familières à nous qui aimons et avons grandi dans les livres plutôt que devant un ordinateur. Mais je suis persuadé que l'un ne peut pas empêcher l'autre, de toute façon, et dans la pratique, il ne l'empêche pas. Qu'il y a aussi des variabilités à ce moment-là, pas simplement temporelles et historiques, mais géographiques, énormes. Nous avons peut-être l'impression aujourd'hui que nos jeunes enfants ne lisent plus, mais vous allez dans des pays africains, où je reviens de Haïti, il est phénoménal comment en Haïti, alors que c'est la misère totale, les jeunes arrivent à lire, il faut s'entendre, les livres sont pratiquement hors d'accès, très peu, mais ça circule, ils lisent en fait beaucoup. J'étais stupéfié par le type de référence que ces jeunes étudiants pouvaient avoir et dont je suis persuadé qu'en partie, les jeunes étudiants ici n'ont pas. Donc il faut aussi faire des différences. Et là, il y a des véritables politiques de la mémoire et de la transmission qui sont également en jeu. On a parfois beaucoup plus à apprendre de ce qui se passe dans ce type de pays que le contraire. Contrairement à ce qu'on a l'air de croire parfois. Donc, partir du présent pour essayer de voir comment ça fonctionne et saisir quel type de culture est mise en place. Et à partir de là, construire quelque chose. Je ne suis pas du tout persuadé par le côté « laissons-les totalement livrés à eux-mêmes ». Ça n'a aucun sens. Ça n'est plus de la transmission. Ni par le côté « bourrons-les de la vraie culture ». La vraie culture n'existe pas. Nous avons nous-mêmes été formés de manière très multiple, aussi bien par Astérix que par Hegel. Bon. Pour prendre deux auteurs de type de livres. Personnellement, je préfère Astérix, mais je pense que ça reste quelque part et ça me semble important. Donc, à ce niveau-là, je crois qu'il y a parfois de faux débats. Mais la question de départ me semblerait être celle-là.
Peut-être une autre question, et puis après, on va aller. Allez-y.
J'aimerais bien savoir, j'essaie de comprendre, en fait, quand ce que vous entendez. Vous avez une relation avec la mémoire qui me semble comme un peu hostile, ou la mémoire, c'est quelque chose qui est... Ça peut faire mal. Mm-hmm. Quand j'étais plus jeune, en Inde, j'ai lu une définition de la Bhagavad Gita de la mémoire qui donnait comme impression, ben, ça dit que sans la mémoire, l'intelligence se perd et puis les sens se brouillent, etc. Mais que la mémoire est l'essentiel. Sans la mémoire, tout s'écroule. Et que plus je regarde, comme le monsieur mentionnait tout à l'heure, plus je regarde en arrière, et plus je me rends compte que les gens avaient beaucoup de mémoire. Et que finalement, avec le temps, j'ai l'impression que avec la mémoire et tout, se détériore. Et donc, je ne vois pas exactement ce qu'on entend par modernité ou progrès par rapport à ce que vous faites par rapport au passé, qui, dans un sens, vous avez un passé un peu, semblerait difficile. Mais il y a des passés qui peuvent être lorsqu'on s'en souvient, puis qu'elle est là dans la mémoire, donner beaucoup de vie et beaucoup de dynamisme à l'existence. Mm-hmm. Mais en fait, je voudrais en fait savoir, j'ai posé la question, je l'ai appris après que c'était votre éditeur, mais est-ce que, en fin de temps, la mémoire, elle évolue ou elle régresse?
Pour commencer par cette ultime question, ni l'un ni l'autre, alors il faut savoir ce que vous voulez dire par la mémoire, hein, parce que comme le disait Johan à un moment, il y a des mémoires comme il y a des passés. Donc tout dépend un petit peu de votre conception de la temporalité et de ce que vous entendez par mémoire. Mais sur la première partie, ce que vous décrivez, c'est tout à fait ce que, dans une société traditionnelle, on conçoit comme mémoire. C'est une puissance d'animation collective, la mémoire. Alors bien sûr, elle est totalement liée à l'intellect, l'intelligence des phénomènes. Sans mémoire, rien ne se passe. Bien sûr, surtout pas le passé, mais donc pas le présent non plus. C'est précisément cette force d'animation collective qui s'est trouvée un peu résorbée, réaménagée, déplacée. Ne serait-ce que de l'extérieur vers l'intérieur, on parlait de processus d'intériorisation tout à l'heure. Force d'animation collective, ça veut dire que la mémoire est à l'extérieur des êtres. La manière que nous avons de concevoir la mémoire depuis le XVIIe siècle, grosso modo, c'est au contraire de penser que la mémoire, c'est simplement une faculté de l'esprit humain, même pas la plus importante. On préfère le jugement, qui nous paraît beaucoup plus important que la mémoire. Donc on est passé d'une force d'animation collective à une faculté secondaire de l'esprit humain, ce qui en dit long sur le statut de la mémoire, précisément. Ce qui réapparaît depuis le début du XXe, pensons à des sociologues comme Maurice Abwax, qui était probablement le premier à essayer de remettre un petit peu la question de la mémoire collective sur orbite, mais surtout depuis la fin du XXe siècle, c'est précisément cette espèce de retour dont on parlait tout à l'heure, d'intérêt pour la mémoire collective. Mais il faut faire la différence entre un intérêt savant, parfois très érudit, très très bien, il ne faut pas se lamenter là-dessus, mais un intérêt savant pour la mémoire collective, pas forcément une pratique de la mémoire collective. Sinon, réaménager dans ce que j'appelle cette culture de la mémoire, mais qui n'est plus précisément cette mémoire comme force d'animation collective. Alors, ce que vous disiez de la définition du Bhagavad Gita, vous trouverez ça partout, de Platon jusqu'à Hugues de Saint-Victor ou saint Thomas d'Aquin. Tout le monde pense la mémoire comme ça. Donc c'est un moment historique pour les sociétés occidentales, comme pour d'autres sociétés aussi.
Alors écoutez, comme l'éditeur a l'amabilité et peut-être aussi la générosité, parfois ça va ensemble, de nous offrir un verre de vin, on m'a demandé de finir un peu plus tôt, et donc je vais remercier d'abord l'auteur qui s'est prêté à l'exercice avec beaucoup de grâce et de finesse. Je vous invite à lire son livre, nos invités Joanne Villeneuve et Dominique Scarfone, qui donc nous ont présenté un propos absolument pertinent sur le livre, et je les remercie aussi. Et donc je vous invite à rester, il y a un verre qui est offert à tous, donc, et vous pourrez parler avec l'un ou avec l'autre. Voilà, merci.